Parlons maintenant de salaire, parce que l'émission qui nous précède, celle de Nathalie Normando, a traité de la question avec une ligne ouverte. C'était très intéressant. Mais en parallèle, il y a l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées qui dresse à chaque année ses prévisions pour les augmentations de salaire. Ils ont sorti les prévisions pour 2022. On va aller en parler avec Manon Poirier, qui en est directrice générale. Bonjour.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous?
Bien, vous-même.
Ça va très bien. Dites-moi, comment vous faites pour calculer, pour prévoir ça, le pourcentage d'augmentation moyen dans les entreprises au Québec?
Oui, en fait, on travaille avec plusieurs firmes québécoises qui sont spécialisées en rémunération. Donc, eux font des sondages auprès de leur base de clientèle. Et c'est comme ça qu'on peut compiler l'ensemble d'informations et vous dire là, que la moyenne des prévisions salariales pour l'année prochaine, tout secteur confondu, est de 2,9%. Et c'est un record depuis 2013.
Depuis 2013, donc un record au Québec comme prévision, 2,9%. Dites-moi, il y a sûrement des domaines, des secteurs qui varient, c'est une moyenne. Là. Il y en a qui sont plus généreux.
Oui, tout à fait. Les secteurs qui se démarquent sont notamment les technologies de l'information, où on anticipe des hausses moyennes de 3,4%, contrairement à la moyenne de 2,9%. Le secteur des banques aussi, les assurances, est à 3,3%. Et dans les secteurs où il y a les hausses les moins élevées, c'est l'administration publique autour de 2,3%.
Dites-moi, ces prévisions-là que vous faites, j'imagine qu'après l'année qui est touchée, vous faites le calcul, savoir si vous aviez visé dans le mille. Dans les dernières années, est-ce que vos prévisions se sont avérées?
Oui, tout à fait. On fait toujours l'exercice, effectivement, ce qui était prévu, ce qui est au réel. Et souvent, ce qu'on voit actuellement dans les dernières années, on a vu que le marché finit par être un petit peu plus généreux que ce qui est anticipé, peut-être par 0,2%. Moi, je vais vous parier que si on se parlait l'année prochaine, le 2,9 va aussi être un petit peu plus élevé parce qu'il y a énormément de pression sur les salaires, effectivement. La pénurie de main-d'œuvre est une réalité pour toutes les industries, tous les secteurs, toutes les régions au Québec. Et donc, ça va mettre encore plus de pression sur les salaires que ce qu'on anticipe encore aujourd'hui.
On aurait tendance rapidement ou d'emblée de dire que c'est une bonne chose que les salaires montent un petit peu plus que la tendance qu'on avait supposée. Y a-t-il un effet négatif à ça? Je ne veux pas être celui à qui on lance des tomates, mais y a-t-il un contrepoids?
Ben, d'un point de vue individuel, non, bien sûr, pour les individus, je pense que c'est de belles nouvelles. D'un point de vue d'organisation, certaines organisations, bien sûr, ça met beaucoup de pression sur leur masse salariale. Aussi, comme consommateur, parfois, quand il y a des hausses substantielles de salaire, ben les entreprises vont refiler à leurs clients aussi ces hausses de coûts-là. Donc, ça peut avoir indirectement un impact sur nous comme consommateurs.
Vous parliez tout à l'heure de secteurs où les augmentations sont assez intenses, entre autres technologies de l'information et communication. On me raconte que dans ce domaine-là, actuellement, c'est féroce, là, la compétition entre les employeurs qui partent d'un à un autre, les négociations font monter les salaires, ce qui peut expliquer ça, mais ça doit avoir une fin parce que la capacité de payer les entreprises n'est pas infinie non plus.
Oui, effectivement, vous avez raison, Dominique, il va falloir que ça se stabilise, mais le défi dans ce secteur-là, puis le fait que mondialement, il y a plein d'organisations qui ont adopté aussi le télétravail, fait que non seulement aujourd'hui, on a de la compétition localement, des employeurs localement, mais on a beaucoup de pression au niveau des technologies de l'information pour les employeurs des États-Unis, par exemple, qui viennent recruter chez nous en offrant des salaires en dollars américains assez intéressants.
On a parlé tantôt des secteurs d'activité qui avaient les plus fortes hausses, des secteurs d'activité qui avaient des hausses un peu plus modestes. Je me risque à la question suivante. Y a-t-il eu des secteurs d'activité où il n'y a visiblement eu pas de hausse, quitte à voir même des baisses de salaire? Je ne parle pas de jobs perdus à cause de la COVID, mais y a-t-il eu des baisses? Y a-t-il du monde qui ont perdu du revenu à taux horaire?
J'ai pas cette information-là. Ce que je peux vous dire, toutefois, l'année dernière, c'est clair qu'en 2020, étant donné l'incertitude, il y a beaucoup d'organisations qui avaient gelé les salaires. Donc, l'année dernière, il y a plusieurs personnes qui ont vu leur salaire là, au même niveau, ce qu'on n'anticipe pas du tout pour 2022. Donc, il n'y a pas d'organisation, là, où c'est très, très marginal, les organisations qui ont dit qu'on ne sera pas capable d'augmenter nos salaires. En fait, plusieurs se rendent compte qu'ils ne peuvent pas se permettre de ne pas les hausser. Donc, c'est plus en 2020, un petit peu 2021, où il y a eu des entreprises qui ont dû geler des salaires.
Dites-moi, tantôt, vous avez dit qu'individuellement, il n'y a pas de mauvais côté à des augmentations salariales. Par contre, on se rend compte que l'indice des prix à la consommation augmente quand même plus vite que le salaire moyen. Donc, on n'a pas vraiment plus pour notre argent.
Exactement. Donc, bien sûr, on a vu les données récentes là, du mois d'août à 4,1. Alors, si on estime le 2,9, ça continue comme ça de 4,2,9, ben, on voit qu'il y a un écart. Bien sûr, c'est toujours une moyenne, donc les gens auront peut-être de quoi avoir une augmentation qui sera similaire à celle de l'inflation, mais pour certains, ça va être moins. Donc, c'est sûr que l'écart se creuse. Et dans un marché, encore une fois, tellement l'avantage des travailleurs, ben, il va falloir que les organisations voient ce qu'elles peuvent faire. Pour le salaire, bien sûr, parce que c'est le sujet de notre conversation, mais je vous dirais que ce qu'on voit émaner de façon très, très claire, et vous ne serez pas surpris, c'est l'ensemble de l'offre. C'est le salaire et c'est aussi les conditions de travail, la conciliation de travail du personnel est tellement importante que des fois, les gens peuvent, au niveau d'accepter un poste ou de rester dans une organisation, venir dire, ben, écoute, je préfère X % de plus ailleurs, mais je vais rester parce que cet employeur-là me reconnaît, investit mon développement. Il me permet d'avoir beaucoup de flexibilité pour concilier ma vie personnelle et mon travail.
Bien, justement, tantôt, autour de 13h, on va se lier à la conférence de presse de Christian Dubé au sujet des infirmières. Puis on a fait une ligne ouverte récemment en ondes sur les raisons à l'hôpital de Roberval, pourquoi il y avait autant de démissions. Puis ce qui revenait le plus, c'était la reconnaissance d'un employeur, se faire traiter comme un numéro. Mm-hmm. Là, on parle du domaine de la santé, mais si on regarde dans l'ensemble des domaines, selon vous, outre la question salariale, c'est quoi le point là, qui est le plus important pour les boss, les patrons qui nous écoutent pour être certain de ne pas perdre des employés?
Oui, ben, je vous dirais très, très clairement les données à l'appui. Les mesures de conciliation travail du personnel, sur télétravail, horaire flexible, donc selon la réalité de ce qu'on fait. Donc, c'est ce qui est très, très important, numéro un, je vous dirais, présentement. Puis sinon, ben, vous l'avez nommé, puis c'est tellement accessible à toutes les organisations, peu importe leur taille et tout ça. C'est faire confiance, donner de la latitude aux gens et reconnaître leur apport. C'est pour ça que les gens restent dans une organisation, parce qu'ils se sentent reconnus, puis ils sentent qu'on croit en eux, qu'on veut les développer. Et c'est pas toujours pour des questions salariales.
Madame Poirier, merci beaucoup.
Plaisir. Au revoir.
Bye bye. Au revoir. Manon Poirier, directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées. Donc, normalement, 2022, attendez-vous à avoir une augmentation salariale qui est en moyenne autour de 3 %.
Je peux-tu noter ça pour mon boss l'année prochaine, là?
Ben, tu peux.
Oui.
Tu peux.
Bon.
Tu peux regarder ça sans problème parce que ça semble être...
La tendance.
Sauf que...
Sauf
important,
que...
L'indice des prêts à la consommation actuellement, l'augmentation ciblée de 4,1.
Ben,
même si tu es dans la moyenne dans ton augmentation de salaire l'an prochain, tu perds 1,1 %,
non.
Même 1,2 % de pouvoir d'achat.
C'est quelque chose qui est un peu spécial, hein? Puis on en a parlé en début d'émission tantôt, puis c'est pas parce que je suis pas patronat, au contraire, je suis du bord du monde. Mais ça, c'est une autre chose. Pour des gens qui ont à renouveler leur contrat ou de voir leur augmentation annuelle arriver l'année prochaine, on en parlait il n'y a pas si longtemps. Souvent, on connaissait des augmentations de salaire, là, mettons, qui n'étaient pas stratosphériques, des augmentations de 1,5, 2%, 2,2%. Puis, du moment que ta tâche restait la même, tu étais content parce que ça équivalait à l'indice des prix à consommation. Okay? Been there, done that, là. L'année prochaine, quand tu renégocies un salaire, je te parle pas d'un changement de tâche ni d'une promotion. T'es obligé de dire à ton employeur, écoute, puis tu veux pas être le méchant dans l'histoire, mais si ton employeur a une santé financière corporative correcte puis que t'offres juste 2%, t'es obligé de dire excuse. Non seulement tu reconnais pas ma fidélité à l'entreprise, mais tu m'appauvris à 2%. Et ça risque d'avoir des... Parce que là, je pense que dans la dernière année, oui, il y a eu de la pression pour augmenter des salaires, là, mais les petites hausses de base que beaucoup de monde avait, là, il va falloir y repenser parce qu'il risque d'avoir des frictions entre les employés et les employeurs. Autrement dit, la nouvelle norme pour l'augmentation rationnelle d'un salaire non conventionné est peut-être plus à 1,4 % comme on voyait pendant des années.
Là, le problème, quand on parle de l'indice des prêts à la consommation, c'est l'indice des prix à la consommation. Mm-hmm. Ça touche pas tous les domaines également. Fait que, tu sais, il y a des patrons qui vont se faire dire « Ouais, mais augmente-moi de 4,1 ». Ça a augmenté de 4,1 ce que j'achète. Ouais, mais moi, dans mon domaine, j'ai pas des augmentations, j'ai peut-être même des diminutions. Je peux pas me permettre financièrement de te payer tant plus que ça.
Mais c'est là où qu'on peut avoir un débat entre qu'est-ce qui est insultant, qu'est-ce qui l'est pas. Si on parle d'un milieu où la business est en santé, si tu restes dans des augmentations minables à 1%, 1,5, c'est un peu courir après le trouble de la perte de tes employés.
Tu perds du pouvoir d'achat chaque année.
Ben, c'est insultant. T'sais, quelqu'un qui reste dans la même entreprise pendant des années, puis tu te fais dire, bon, on va t'augmenter le prix de la consommation. C'est sûr que si jamais tu as une promotion, tu changes de poste. C'est normal d'être augmenté, on se comprend tous. Mais à chaque année, les petites augmentations minimales de la chose, ben, le minimal, théoriquement, devrait être plus haut l'année prochaine. Tant mieux.
On disait au coût de la vie. Hein? Ben, c'était ça le terme à la mode.
On
ne
se mentira pas si on a connu ça en masse.
2,2.
1,8. Moi, j'ai connu ça 1,5, 1,82. Puis là, tu fermais ta boîte parce que c'était somme toute de gré à gré raisonnable. Si on a le même mécanisme, ben, l'année prochaine, ça ne peut plus être 1,5, ça ne peut plus être 1,8. Puis c'est pas de vouloir saigner l'employeur à blanc. C'est de dire, écoute, si le coût de la vie a monté de 4%, je te demande même pas une augmentation. Je te dis juste de mettre mon salaire au coût de la vie, puis je vais être content. Puis après ça, si tu veux négocier une vraie augmentation, c'est à toi de prouver ce que tu vaux.
Mais dans ce cas-là, c'est souvent le salaire de départ. Puis ça revient à ce qu'on parlait tantôt avec ton épisode quand tu es allé
au Québec Resto,
Québec
tantôt,
Resto en face. Un client qui est allé dire que ça n'avait pas de bon sens offrir des postes à ce salaire-là, que ça mériterait 23-24
piastres. Bon. Ben non, c'était pas assez 23-24 piastres.
Mais c'est le salaire.
Plus que ça.
C'est le salaire de départ qui est important.
Ben, idéalement.
Puis tu sais, dépendamment du salaire de départ, peut-être que si pour jouer du coude puis distinguer de d'autres entreprises, c'est un bon salaire de départ, ben dans certains domaines, c'est des augmentations qui vont toujours être un petit peu moins grandes d'année en année parce que tu peux pas, justement, accoter l'indice des prix à consommation puis augmenter ad vitam aeternam puis avoir quelqu'un qui flippe des burgers éventuellement à 30 piastres à l'heure. C'est illogique, là.
Ouais.
Fait que tu sais, il y a de ça aussi, je pense, de voir, oui, le salaire de base puis les augmentations annuelles rendues là. Dans certains domaines, le salaire de base à l'entrée est tellement bas, même si tu augmentais à 6 % par année, là,
c'est insignifiant.
Tu serais même pas compétitif après 10 ans. Fait que c'est un petit peu tout ça qu'on doit regarder. Midi 55, on s'arrête et au retour, on se joint à la conférence de Christian Dubé qui sera accompagné de Sonia Lebel. Donc, on présume qu'il y a de l'argent qui va sortir de cette annonce-là.
On revient tout de suite après la pause. 95.7 Kick, Saguenay. Midi pile. Fun et effronté. Avouez qu'ils sont aussi très convaincants. L'équipe numéro 1 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le show du matin. Avec Dominique Fortin, Martin-Thomas Côté et Tania Clouston. L'émission de radio la plus écoutée au Saguenay-Lac-Saint-Jean. 95.7.